France Inter, le 18-20.
Les épreuves écrites sont superfétatoires. Bref, elles s'ajoutent inutilement et au fond, c'est ce que nous en avons compris, elles ne disent rien des élèves recrutés, rien de plus que ce que les dossiers apprenaient déjà. Superfétatoire, c'est le mot de Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po, qui était ce matin chez nous sur France Inter. Sciences Po qui a donc décidé que les épreuves écrites n'auraient plus lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concours en soi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sélection, ça veut dire autre chose, ça veut dire différent. Le dossier, depuis la seconde, et un oral plus musclé. Sciences Po, encore une fois, mais sciemment les pieds dans le plat, comme l'école l'avait fait déjà en 2001 avec les conventions d'éducation prioritaire. Elle dit que les modes de recrutement sont devenus vieillots, que pour diversifier les profils, il faut casser les codes et peut-être aussi casser les moules. L'époque est propice, la crise de légitimité des élites force à s'interroger sur leur formation. La réponse de l'État était de fermer l'ENA, celle de Sciences Po, et donc de sortir de l'idée que quand tout le monde est en ligne, on ne veut voir qu'une tête et que cette tête est blanche, CSP+, sortant d'un lycée d'excellence. Alors, est-ce que tout cela est la bonne méthode? Est-ce qu'on répond à ceux qui disent... Qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent qu'en fait, voilà, une école qui finira comme une école au rabais, que l'on sape la méritocratie, je ferme les guillemets, pour préférer la discrimination positive? Que font les autres écoles sur concours? Faut-il tout changer? Est-ce que Sciences Po fera des petits? Est-ce que c'est comme ça que la diversité est réellement meilleure? C'est le sujet de notre discussion ce soir et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Es. Le téléphone sonne.
Olivier, c'est vous qui commencez. Soyez le bienvenu, bonsoir.
Merci beaucoup, bonsoir.
Et on vous écoute, Olivier.
Alors, moi j'appelais parce que ma fille est à Sciences Po, évidemment, je me sens concerné depuis cette année, en première année. Et j'appelais surtout par rapport au terme de méritocratie qui me gêne. Alors, par rapport au concours de Sciences Po, ma fille a passé le concours tel qu'il sera, puisqu'elle a été exemptée des écrits, elle est passée directement à l'oral. Donc c'est grâce à son travail au lycée, grâce à son dossier scolaire qu'elle a pu accéder directement aux oraux. Et donc, on pourrait dire, c'est un peu une sorte de méritocratie. Et je trouve ça dommage qu'on tape systématiquement sur la méritocratie, comme si c'était un petit peu un privilège, alors qu'il y a plein d'élèves qui travaillent énormément, qui ont des projets, qui ont des objectifs, et qui vont faire tout ce qu'il faut au lycée pour avoir un dossier béton et puis accéder à leur rêve, hein, parce que c'était un rêve pour elles. Et je trouve dommage que parfois, sous des grandes idées, des grands idéaux de discrimination positive, eh bien certains enfants qui ont énormément travaillé se voient parfois disqualifiés alors qu'ils ont mis tout en œuvre pour réussir à accéder à leur rêve.
Et Olivier, justement, comment ça se passe pour votre fille? Comment ça se passe? On a déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, mais de le mélange avec ceux qui ont passé le concours, et y compris écrit, puisque la révolution, j'allais dire, en cours, elle commencera en 2021, peut-être avant ailleurs même. Est-ce qu'on en parle dans les couloirs de Sciences Po de qui est entré comment? Ou au fond, à ce moment-là, au milieu des élèves, tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde est dans le même bateau désormais.
Alors, je sais pas, je suis pas au quotidien avec elle. Elle ne transmet pas des choses sur une discrimination. Par contre, après, au sein des étudiants, sur t'as passé le concours, t'as été reçu directement, il n'y a pas du tout de hiérarchie entre eux. Ça, c'est clair. Après, y a, effectivement, elle a travaillé avec les enfants, les élèves qui venaient de zones défavorisées, qui ont été acceptées parce qu'il y a des plans pour les faire travailler et pour les aider à s'intégrer au mieux dans les études de Sciences Po. Et Sciences Po, là, il faut leur reconnaître ce travail-là. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des élèves un peu partout, peut-être qu'ils n'avaient pas d'objectif de Sciences Po et ils vont les chercher pour les amener à ça parce qu'ils pensent qu'ils ont une vraie valeur et ça c'est intéressant.
Et c'était le but en effet à ce moment-là, c'est toujours le but dans ce qui se passera derrière et c'est de ça dont on va discuter ensemble. Merci beaucoup Olivier pour cette entrée en matière et bonsoir à vous Chantal Dardelet.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du Centre Égalité des Chances de l'ESSEC, Grande École de Commerce, vous êtes animatrice d'un groupe de travail qui s'appelle Ouverture Sociale de la Conférence des Grandes Écoles et bonsoir à vous Vincent Tibéry. Est-ce que vous êtes là?
Oui, tout à fait.
Super. Vous êtes en duplex de France Bleu Gironde à Bordeaux. On en profite pour saluer nos amis de l'autre côté à Bordeaux, sociologue, professeur et délégué recherche de Sciences Po Bordeaux. Vous avez travaillé, vous, sur la mise en place des conventions éducation prioritaire à Sciences Po. Puis vous allez nous raconter aussi, d'ailleurs, comment ça va se mettre en place à Bordeaux, parce qu'il n'y a pas que Sciences Po Paris qui compte. Évidemment, d'abord, c'est à vous que je m'adresse, Vincent Tibéry, puisque la fille de notre ami Olivier est à Sciences Po. Au fond, sa fille représente ce qui sera le cas pour tous. Effectivement, comme il le dit, elle a passé le concours, sa fille, comme tout le monde le passera finalement à terme.
Oui, et puis il faut quand même se souvenir que l'entrée à Sciences Po au Paris était une entrée qui était déjà faite par de multiples voies avec différents types de sélections. Et donc déjà, par exemple, en 2010, quand on avait commencé à travailler sur le bilan des conventions éducation prioritaire, on avait pu regarder effectivement comment différents types de sélections à travers des oraux, à travers des dossiers, à travers des épreuves écrites pouvaient effectivement plus ou moins être ouverts socialement, pouvaient plus ou moins permettre de recruter une excellence, mais aussi d'autres formes d'excellence. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il fallait peut-être casser le moule, ce que je dirais, c'est qu'il faut en fait avoir plusieurs moules. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut que nos procédures de sélection soient capables à la fois de reconnaître les très bons étudiants, mais également de reconnaître des potentiels, des étudiants qui ont des parcours un peu différents, qui ont des histoires différentes, et donc aussi avoir une vision beaucoup plus large des compétences qu'on mesure à travers un concours. Et ça, clairement, l'écrit ne faisait que mesurer certaines compétences, et clairement pas toutes.
Et est-ce que c'est la raison pour laquelle, parce que vous le disiez, effectivement, il y a plusieurs portes d'entrée à Sciences Po depuis longtemps, il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées, par exemple, je pense à l'épreuve de culture générale en 2013 notamment, qui était... Est-ce que c'est ce genre de choses, en fait, qui sont particulièrement discriminatoires et qui, au fond, ne disent rien d'un élève, si ce n'est qu'il a eu peut-être accès à des livres et une connaissance que d'autres n'ont pas forcément?
Alors, ce qu'on avait vu, et alors ça vaut pour Sciences Po Paris comme pour Sciences Po Bordeaux, hein, ce qu'on constate, c'est qu'une dissertation, effectivement, sur des sujets de culture générale a tendance à mettre en place une note de gueule sociale. C'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, il y a la maîtrise d'un certain nombre de codes culturels, il y a la maîtrise d'un certain nombre de références qu'on n'aura pas forcément toujours dans toutes les strates de la société française. En gros, les épreuves qui étaient les moins discriminantes de ce point de vue-là, quand on tenait naturellement compte hein, du niveau académique des étudiants, notamment leur note au bac, contrôlé par ça, on se rendait compte que les épreuves sur dossier étaient relativement meilleures de ce point de vue-là. Mais surtout, et c'est là où le bât blesse dès lors qu'on fait un concours, en fait, la première discrimination sociale, elle tient au taux de sélection. Plus un concours est sélectif, plus vous avez de chances que les enfants d'ouvriers, d'employés, de professions intermédiaires, finalement, quel que soit leur niveau, soient exclus du Graal. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et Richard Descoings l'avait très bien compris, en fait, dès 2001, en disant que entre le premier recalé et le dernier reçu, finalement, il y a très peu de différence. Et ça, on le voit aussi à Sciences Po Bordeaux, dans le fait que, en gros, on recrute 7% des candidats, mais les 7% qui suivent sont aussi d'excellents candidats. Et donc, quelque part, dans cette société française où tout se joue entre 18 et 20 ans, quelque part, on peut se dire qu'on est en train de rater quelque chose.
Et en même temps, Vincent Tibéry, après je donnerai la parole évidemment à Chantal Dardelet, en même temps, il y aura toujours une sélection. Donc, ce que vous dites sur, et vous avez raison, sur... le dernier admis et le suivant, qui sont évidemment dans un mouchoir de poche, cette sélection-là, quoi qu'on en dise, elle existera toujours.
Tout à fait. Et donc, c'est aussi à nous de réfléchir à nos manières de sélectionner. En gros, je pense très fortement depuis quelques jours à Annabelle Alouche et son travail hein, sur la société du concours qui montrait très bien que quelle que soit l'épreuve que vous mettez en avant, que ça soit un oral, un écrit, vous avez très rapidement des biais sociaux qui peuvent intervenir ou des biais de territoire, des biais de genre. Et donc, en fait, c'est à nous, en tant qu'évaluateurs, de mettre en place des grilles d'évaluation, des manières de penser les choses qui nous permettre justement d'adapter notre grille de jugement aux gens qu'on a en face de nous. Moi, je pense qu'il est extrêmement important, par exemple, on parle beaucoup des oraux, et donc à Paris comme à Bordeaux, on va notamment travailler sur la question des CV, des lettres de motivation, etc. On sait très bien que, par exemple, des enfants de classe sociale supérieure auront eu la chance, pour certains d'entre eux, d'aller faire des séjours linguistiques. Et bien, ceux-là, en l'occurrence, ont eu cette chance-là, et puis il y a d'autres étudiants, d'autres élèves qui ne pouvaient pas, parce que ils vivent dans des territoires où ce genre de possibilités n'existent pas, ou alors parce qu'ils sont obligés de s'occuper de leurs frères et sœurs. Mais il faut réussir à faire en sorte que nos grilles de lecture permettent de ne pas discriminer entre les uns et les autres, de pouvoir à la fois s'intéresser justement à ces enfants de classe sociale supérieure qui ont beaucoup travaillé, ça je ne nierai jamais, hein, mais également de donner des chances à des profils différents.
Chantal Dardelet, moi ce que je trouve intéressant, c'est aussi de constater au fond que les élèves, après le concours écrit qui sont admis, ce sont les mêmes en fait que ceux de l'oral. Ce que je veux dire, c'est que l'écrit ne nous dit rien de plus en fait sur ce qu'ils sont. Est-ce que ça part de là aussi, ce genre de réflexion? Est-ce que c'est une réflexion que vous vous faites vous aussi à l'ESSEC, ou est-ce que dans des écoles de commerce on a peut-être encore un logiciel différent?
Déjà, à l'ESSEC, comme dans bon nombre d'écoles de la conférence des grandes écoles, et j'aurai l'occasion d'illustrer avec un certain nombre d'exemples, on joue depuis un certain temps la carte de la diversité des modes d'accès. Mmh. Et ça, c'est un point essentiel, on l'a dit, on le redit. Et quand on est à Bac plus 2, par exemple, ou au-delà, mais eh bien effectivement, on peut être passé par une classe préparatoire, on peut être passé par d'autres voies. Et ces différentes voies ne jugeront pas exactement sur les mêmes critères, donc avec des modes de sélection variables. Et c'est grâce à ces leviers-là que l'on peut justement drainer vers les formations des profils divers et mettre en valeur, alors effectivement, des connaissances, mais aussi des compétences, mais aussi de l'expérience, et traduire tout ça finalement en éléments qui disent quelque chose des jeunes dans la diversité de leur profil.
Est-ce que les modèles sont tous transposables au fond ? Est-ce que Sciences Po est un modèle que vous regardez pour d'autres, ou est-ce que vous vous dites ça c'est effectivement c'est leur modèle parce que c'est aussi le genre d'élèves qu'ils forment ? Nous, on doit peut-être aller vers une voie différente. Est-ce que tous les modèles sont équivalents ou pas ?
Il y a déjà beaucoup de modèles existants et on les regarde tous, notamment dans le cadre du, vous parliez du groupe Ouverture Sociale, qui devient d'ailleurs un observatoire de l'ouverture sociale des grandes écoles, qui avait été annoncé par Anne Lucivac, la présidente de la CGE, le 4 juin dernier, où on va justement, et on a commencé à le faire, mais on va le formaliser et donner à voir la diversité d'expériences, parce qu'elles peuvent toutes inspirer d'autres écoles. Il n'y a pas une seule façon d'augmenter la diversité sociale des grandes écoles, ce serait déjà fait, parce qu'il ne faut pas douter de la volonté des écoles de faire.
C'est ça, c'est une et de ceux qui y vont d'ailleurs, est-ce qu'il y a des réticences aussi de la part de ceux qui passent ces concours-là, alors qu'ils sont peut-être les anciens ou pas forcément, qui ont beaucoup travaillé et qui disent mais enfin comment pour moi c'est plus compliqué que d'autres. Est-ce que ces freins-là existent aussi parmi ceux qui rentrent, donc les plus jeunes on va dire, ou pas du tout?
La vérité, c'est qu'il y a des jeunes, déjà, il faut se rappeler qu'il y a des jeunes avec beaucoup de talent qui ne savent même pas que les grandes écoles existent. Alors, on commence par là-bas.
Donc, celle-là, absolument, c'est là que ça commence.
Et à la limite, aujourd'hui, quand on leur dit, il y a des places pour vous, 30% de boursiers, etc., ils vont dire, so what? Donc, bon, on pourra partir aussi de tout ce qui est à faire en amont pour effectivement donner vraiment ses chances à chacun. C'est un sujet très, très important. C'est l'occasion pour moi, d'ailleurs, de dire que les grandes écoles, derrière la notion d'ouverture sociale, j'allais dire, ont trois dimensions qui sont indissociables et qu'il faut travailler de la même façon. Effectivement, la diversité sociale, des modes de recrutement, enfin des recrutements, des étudiants qui arrivent dans nos écoles, comment faire en sorte qu'elles soient le plus possible à l'image de la diversité de la société. C'est le sujet principal d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas le dissocier de deux autres aspects. Comment on fait pour que tous les étudiants dans nos grandes écoles, qui ont comme particularité justement d'être appelés demain à avoir des responsabilités à différents niveaux. Comment on fait pour que ces étudiants-là soient ouverts sur la société, autre acception d'ouverture sociale? Comment on fait pour aiguiser la conscience sociale de tous les étudiants, quel que soit leur milieu d'origine, pour que demain, ils prennent des décisions et fassent des choix en phase avec la réalité de la société, tout aussi important.
C'est pour
ça
que je vous posais la question pour les gamins, pour les enfants, pardon, j'ai encore me fait engueuler, j'ai pas le droit de dire gamins, pour les étudiants qui rentrent en fait. C'est pour ça que je me posais la question de ce genre de frein-là, au fond, qui doivent exister aussi. Il y a autre chose, et on y viendra aussi au fil des questions. La diversité sociale, c'est une chose, la diversité géographique en est une autre.
Tout aussi importante, on pourra peut-être parler aussi, des territoires isolés, des zones de l'outre-mer, etc.
Absolument.
Thématique encore plus difficile.
Juste avant, un aller-retour au standard. Bonsoir Agnès.
Bonsoir.
On vous écoute, Agnès, allez-y.
Je me posais une question, c'était en quoi le fait de supprimer le concours écrit n'était pas identique au fait d'avoir rapport au dossier, et sachant que les évaluations sur les trois années de lycée font appel au même savoir académique, aux mêmes manières d'apprendre qui sont du bachotage, avec les mêmes et qui font finalement à l'arrivée vont donner les mêmes profils. Ça c'était le premier élément de ma question, et le deuxième serait plutôt pourquoi, et aussi bien là du coup sur les évaluations au lycée que sur ce qui permet de rentrer dans les concours de Sciences Po ou autres écoles, on fait pas appel et on fait pas des évaluations qui font appel à d'autres formes d'intelligence, je pense toutes les intelligences créatrices, les intelligences émotionnelles, enfin tout ça, et que je trouve que finalement, on s'en réclame souvent, et depuis des années, on le déplore, mais je trouve qu'on avance vraiment pas du tout assez vite. Et ça laisse finalement sur le carreau des tas de gens, parce que on essaye de faire 30% de boursiers, et là je suis à fond pour, mais finalement, il faut qu'ils rentrent dans le moule du bachotage et des apprentissages, toujours les mêmes, et faisant appel à la même forme d'intelligence.
Merci beaucoup pour votre question, Agnès. Vincent Tibéri, en quoi on peut éviter l'écueil du même profil, la fameuse ligne avec je veux voir qu'une tête dont je parlais tout à l'heure, lorsque on regarde le dossier seconde, première, terminale plus que l'examen écrit?
Mais déjà parce qu'il faut regarder d'autres types de compétences ou d'autres types de savoir-faire ou de savoir-être qu'ont pu développer les candidats. C'est-à-dire que si on regarde une vraie lettre de motivation, à condition qu'elle n'ait pas été faite par une entreprise ou par des parents, mais qu'elle est vraiment, qu'elle raconte quelque chose.
Mais vous savez candidat, faire la différence, non? Pardon de vous interrompre, Vincent Tibéri. On sait faire la différence, non?
Il faut le faire. C'est-à-dire, c'est l'avantage notamment de pouvoir le faire lors des oraux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a quelqu'un en face de nous, on peut essayer effectivement commencer à creuser de plus près ce qu'il nous donne à voir de son parcours, de son histoire. Et donc, il faut, de ce point de vue-là, c'est encore une fois, cette forme d'individualisation ou de socialisation de l'évaluation qui me paraît super importante. Et de l'autre côté, je suis très sensible à ce que disait votre auditrice, parce que quelque part, on a eu, dans notre manière de former les élites, une fâcheuse tendance à tout donner sur le début de la carrière, c'est 18-20 ans. Et même chose, par exemple, pour l'ENA. L'ENA, on donne énormément de place aux concours externes, où vont être recrutés d'excellents étudiants qui ont excellemment bien travaillé et réussi dans les différents IEP. Mais il n'empêche que, en faisant ça, on se prive de compétences de la part de nos chefs d'entreprise, de leaders d'associations, de d'autres types d'élites qui mériteraient tout autant de rentrer dans la haute fonction publique et de participer à la direction du pays. Donc quelque part, c'est aussi, l'enjeu, c'est aussi de changer nos manières d'enseigner. D'ailleurs, je suis sensible à ce que disait ma co-invitée, c'est-à-dire que derrière, il faut aussi que nos institutions changent. C'est-à-dire que quand on a uniquement de très bons étudiants issus des classes sociales favorisées, ayant les mêmes cultures ou la même référence commune, c'est une chose, mais quelque part, on passe à côté de ce que c'est que la diversité d'une société et des manières de penser cette société. Et donc, naturellement, il faut... Derrière, c'est une mobilisation générale de ces institutions. Et donc, progressivement, on voit émerger dans différentes grandes écoles, dans différents cénacles, des envies, effectivement, d'appuyer, de construire différemment le curriculum, de faire en sorte, et c'était par exemple très important pour les conventions éducation prioritaire à Paris, de faire en sorte qu'à la fin, on les amène à un niveau. C'est-à-dire pas partir du principe que le concours est là pour sanctionner une bonne fois pour toutes le niveau, mais de faire en sorte que en 5 ans ou en 6 ans, les étudiants qui sont passés par ces différentes procédures parallèles puissent au final devenir des étudiants comme les autres et s'insérer sur le marché du travail ou ailleurs comme ils l'entendent.
Chantal Dardelet, il y avait dans la question d'Agnès une deuxième partie qui parlait d'aller chercher d'autres formes d'intelligence, en fait, d'être capable de détecter ça. Est-ce qu'on sait le faire à l'entrée des grandes écoles désormais? Est-ce qu'on sait aller chercher cet étudiant un peu atypique qui développe autre chose, en fait? Et j'ai aussi un corollaire à cette question. Est-ce qu'il a envie de venir vous voir? Est-ce que vous savez lui donner envie à celui qui a une autre forme d'intelligence, justement, d'aller chercher à l'ESSEC, à Sciences Po ou peu importe où ailleurs, en fait?
Alors, déjà dans les grandes écoles, il y a des écoles dites en 5 ans qui recrutent tout de suite après le bac. Et il y a des écoles qui recrutent plus loin.
Et il y en a qui font les deux.
Et il y en a qui font les deux, exactement. Pour celles qui recrutent au niveau bac, la question, c'est l'école ne dit pas tout d'un jeune, c'est une évidence. Comment on crée les conditions pour qu'au-delà de ce que l'école dit du jeune, on va dire le dossier scolaire, comment on peut mettre en valeur et analyser finalement les compétences qu'il a pu développer, alors pour certains par des voyages, par des séjours linguistiques, pour d'autres en faisant les marchés le samedi matin ou étant issu d'une autre culture, maîtrisant une autre langue, etc. Il faut faire comprendre à chaque jeune que tout ça c'est des atouts dans le monde d'aujourd'hui et qu'ils doivent en être fiers, en fait. Et pour beaucoup, c'est pas identifié comme tel. Donc ça, je pense que c'est une première dimension, et ça veut dire que dès le bac, on est capable de mettre ça en lumière. Après, quand on recrute à bac plus 2 ou au-delà, c'est quand même plus facile, puisque les trajectoires de vie, les expériences professionnelles et autres disent beaucoup d'éléments supplémentaires. Et je pense que si on combat des idées reçues sur un certain nombre d'écoles, si on tire de l'idée que c'est des écoles pour les riches, pour tout ça, mais non. Et si on voit ça au contraire comme des lieux de formation ouverts à tous, qui attendent de la diversité, parce que c'est ce que ceux qui les recruteront plus tard demandent, si on combat ces idées reçues-là, si on explique les taux d'insertion professionnelle, par exemple, je ne vois pas pourquoi, finalement, demain, l'ensemble des formations ne serait pas accessible à tous les talents, quel que soit le territoire et le milieu d'origine.
Bonsoir Thomas.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Oui, voilà. Alors, je suis enseignant dans le secondaire et ça fait un certain nombre d'années, enfin, depuis 2 ans, en fait, qu'on se bat contre Parcoursup parce qu'on considère que ça permet le tri social. Donc je comprends la volonté de votre invité de vouloir avoir un champ de recrutement plus large au niveau social, Mais est-ce que lui, il va appliquer, comme la plupart des autres grandes écoles de France, des pondérations sur les différents établissements de recrutement, à savoir que Parcoursup, l'algorithme permet d'appliquer une pondération. Un 19 à Louis-le-Grand n'a pas la même valeur qu'un 19 à Saint-Denis. Si Sciences Po applique ces pondérations, alors à ce moment-là, la volonté de recruter plus de manière plus large au niveau social ne sera qu'une bonne volonté dans les mots. Et par ailleurs, je voulais aussi rappeler que le recrutement à Sciences Po se fait de plus en plus sur des étrangers, des étudiants étrangers qui, eux, paient très très cher leur inscription. Donc là aussi, il y a peut-être un problème en termes de diversité sociale.
Merci pour cette question, Thomas. C'est pour vous, principalement, Vincent Dibéry. Il y en a beaucoup des questions comme ça sur, effectivement, la pondération. Comment on va faire pour les regarder, ces fameux dossiers? Et il y a quelques subsidiaires que je vous livre maintenant, comme ça vous pourrez faire d'une pierre deux coups, qui sont liés à Parcoursup. Faudra-t-il mettre dans les vœux des choses particulières à Parcoursup? Faudra-t-il insister sur faire une terminale littéraire, faire une terminale équivalent de ES ou scientifique pour avoir une meilleure chance d'entrer ensuite à Sciences Po?
Alors, je vais revenir sur la question des pondérations, mais ça me permet d'abord de sauter sur quelque chose de très important. C'est-à-dire que cet objectif de boursier qu'on met en avant, c'est 30% que Sciences Po Paris a mis en avant. Bon, en fait, on n'en est pas si loin. Par exemple, à Bordeaux, on est à 28%. Mais je pense que c'est pas forcément le bon objectif. Le bon objectif, c'est le taux de boursier du secondaire.
Et là, ça, c'est votre objectif à Bordeaux, d'ailleurs.
Oui, c'est notre objectif, parce que en fait, le taux de boursier du secondaire est construit. Les boursiers du supérieur sont construits sur une partie de la population beaucoup plus large. C'est-à-dire que vous pouvez être enfant de professeur du secondaire et être boursier du supérieur, tout simplement parce que vous êtes éloigné du domicile parental et que vous avez un ou deux de vos frères et sœurs qui sont déjà dans le supérieur. Donc quelque part, la vraie démocratisation, je pense qu'il faut qu'on la cible sur des territoires, mais il faut aussi qu'on la cible sur des origines. Et les boursiers du secondaire, là, clairement, sont un vrai objectif. Et donc, je vous donne les chiffres tels qu'on les a. En gros, à Sciences Po Bordeaux, 28% de boursiers du supérieur contre 4% de boursiers du secondaire. Et donc, il est très clair que ce que nous voulons faire, c'est d'arriver à un concours qui, à la fin, sera socialement neutre. C'est-à-dire qu'on aura à peu près autant de boursiers du secondaire recrutés qu'il y en a dans les filières générales du lycée. C'est-à-dire 17%. Et donc, en faisant ça, on a un vrai levier d'action et un vrai levier de mesure. Et ça, c'est un vrai travail que les grandes écoles doivent prendre en compte.
Alors, Monsieur Tibéry, donc sur la pondération et surtout sur la meilleure chance de Parcoursup jusqu'à Sciences Po.
Ben, écoutez, sur la pondération, le but du jeu pour nous est de faire en sorte d'avoir une vision assez large des notes. À Bordeaux, ça va être sur le français, l'histoire géo, sur la philo, sur les langues vivantes. Et en fait, pour nous, c'est une manière de présélectionner pour ensuite pouvoir mieux examiner. Et soyons clairs que je suis extrêmement attentif dans la manière dont on va travailler à ce qu'on ne fasse pas que renforcer les lycées de centre-ville. On a Nouvelle-Aquitaine, un réseau qui s'appelle donc Je le peux parce que je le veux, avec 49 lycées essaimés sur l'ensemble des trois anciennes régions que sont Poitou-Charentes, le Limousin et l'Aquitaine. Et le but du jeu, c'est notamment aussi d'aller chercher dans ces lycées des gens différents, et notamment parce que on a aussi des équipes qui se mobilisent, des équipes qui ne sont pas forcément dans des situations où elles recrutent uniquement les bons étudiants. Donc quelque part, moi je serais, ça fera partie des choses que j'aimerais qu'on mette en place, c'est être attentif à la plus-value des lycées, être attentif au fait que certains lycées travaillent dans des conditions différentes que d'autres. Donc le but du jeu est effectivement, là aussi, d'avoir la vision la plus large des choses.
Voilà. Sur le choix de Parcoursup, c'est une question qui revient très souvent. Effectivement, désormais, la manière dont c'est fait, en gros, la crainte qu'ont certains des jeunes gens qui nous écrivent, c'est quelle est la meilleure chose que je dois faire, quel est le meilleur bac que je dois faire pour avoir encore plus de chances d'entrer à Sciences Po désormais, puisque ce sera sur concours.
Alors,
est-ce que vous regarderez dans les trois disciplines? Est-ce que vous regarderez au-delà?
Alors, bien sûr, ça va changer en fonction de la réforme du bac. Pour l'heure, ce que nous préconisons, c'est plutôt du côté de Bordeaux, c'est les séries générales. Et à partir du nouveau bac, on a décidé de laisser ouvert la possibilité de choisir à différentes spécialités. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui finalement nous intéresse, d'avoir des étudiants extrêmement différents, extrêmement divers. Donc voilà, il faut les rassurer de ce point de vue-là. Après, donc, de toute façon, l'entrée sur Parcoursup n'est pas négociable. C'est-à-dire que désormais, les grandes écoles qui recrutent à bac zéro sont obligées de rentrer sur Parcoursup.
Absolument.
Donc on est, voilà, ça veut dire que, alors la bonne nouvelle quelque part, c'est aussi que nos étudiants ou les gens qui ont envie de rentrer chez nous seront à peu près fixés sur leur sort bien avant le bac.
Chantal Bardelais, voilà. Là-dessus, je vous voyais réagir. Notamment, tiens, j'ai cette question de Grégoire, peut-être que ça vous aidera. Avec cette réforme, l'avenir professionnel des étudiants se jouera donc dès la seconde et ne laisse pas droit à l'erreur.
Oh là là, quelle vision pessimiste des choses. Je pense qu'il faut rappeler qu'on sera toujours mieux à avoir en face de nous un étudiant qui a eu un bac avec une bonne note parce qu'il a fait des matières, il a suivi et fait des choix de matières qui l'inspiraient, dans lequel il était à l'aise et qui lui permettent de décrocher.
Mais sauf que le choix sera avant l'examen du bac, en fait. Le choix se fera avant l'examen.
Bien sûr, mais quand il aura à choisir, s'il choisit en fonction de ce qu'il aime, de ce qu'il est, de ce qu'il inspire, de là où il est, il a de l'envie, etc., il a toutes les chances de performer au bac et par la suite, parce qu'il aura aligné quelque part ses choix de matière avec ce qu'il aime. Et je pense qu'en face, c'est-à-dire dans le supérieur, on sera toujours plus intéressé et plus attiré par un étudiant qui a eu une bonne note, qui est capable de valoriser ce qu'il a appris, que quelqu'un qui aujourd'hui parfois arrive péniblement parce qu'il a fait la voie royale, etc.
Hein. Est-ce qu'on peut rassurer Grégoire sur le fait qu'il a le droit de se planter aussi à un moment pendant sa seconde, remonter en première et se recadrer en terminale?
Bon, enfin, je pense que c'est une évidence, bien sûr. C'est des questions que les milieux populaires aujourd'hui n'arrivent même pas encore à se poser, tellement ils sont loin de tout ça. Donc c'est déjà une grande chance de se poser ces questions-là.
Allez,
ça dit beaucoup.
Un mail peut-être plus positif, il vient de Thomas sur franceinter.fr qui nous dit « Entrer en master à Sciences Po, j'ai surtout pu défendre un profil atypique de licence, études à l'étranger, reconversion dans le cadre de mes études, grâce à l'oral de motivation. Je pense vraiment que j'ai pu réussir le concours, non pas grâce à mes notes aux épreuves écrites, mais grâce au grand oral qui permet de défendre un profil et un projet plus que des notes. » C'est le profil, non pas idéal parce qu'il n'y en a pas, mais un profil typiquement qui aurait pu passer en dehors des mailles des filets que celui de Thomas, non ?
Oui, mais justement, c'est pour ça que je reviens deux minutes sur les admissions parallèles dans les grandes écoles, parce qu'on a beaucoup parlé de Parcoursup, mais quand on regarde un peu plus loin, aujourd'hui, justement, si je prends une école comme l'ESSEC, on a 50% des étudiants qui passent par les classes préparatoires aux grandes écoles, 50% qui passent par d'autres, et c'est vrai dans de nombreuses grandes écoles. Ce qu'on va regarder, justement, ce sont des individus de cette nature-là, qui ont un projet et qui viennent chercher des compétences complémentaires en management ou ailleurs, et qui sont capables de valoriser ce qu'ils ont déjà fait, de bien sûr de s'appuyer sur un dossier universitaire, mais pas que. Et je pense que ce sont des profils comme ça qui, justement, aujourd'hui nous intéressent. C'est des entrepreneurs pour demain. Ce sont des gens qui sauront porter des valeurs, porter des projets, trouver des solutions à des problématiques complexes.
Bonsoir Chloé.
Bonsoir.
On vous écoute Chloé, allez-y.
Alors moi je suis étudiante à Sciences Po, j'ai 21 ans et je vais rentrer donc en master à la rentrée. J'ai été admise par le biais de sur mon dossier, donc j'ai pas passé les concours. Et en fait, moi ce que je pense de la suppression du concours, c'est que son principal défaut, c'est que peut-être ça va mettre beaucoup plus la pression aux lycéens, donc sur toutes leurs années d'études, pour faire des choses qui vont les démarquer dans leur dossier, mais pas dans leur dossier scolaire, on va dire des activités extrascolaires, comme par exemple s'engager dans une association, ou faire du sport à haut niveau, ou tout ce genre de choses, ou par exemple faire un séjour à l'étranger. Et c'est des genres de choses qui sont pas forcément accessibles ou connues des classes sociales moins aisées, et qui vont potentiellement donc créer ce clivage. Et en plus, je pense que les adolescents vont le faire en ayant en tête Sciences Po et pas parce qu'ils veulent le faire. Et je parle en connaissance de cause. Moi déjà, par exemple au lycée, je me suis présentée pour le conseil d'administration de mon lycée et je l'ai clairement fait parce que je pensais à Sciences Po et pas parce que je voulais le faire.
Mais en même temps, Chloé,
c'était hypocrite.
Maintenant que vous êtes rentrée, vous avez le droit de l'avouer. Mais en même temps, Chloé, est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça qui a joué pour que vous puissiez rentrer, en fait, au fond ?
Non, mais moi, par exemple, j'avais fait de la danse à haut niveau et après, je sais qu'ils regardent beaucoup les notes, mais s'ils disent qu'ils vont supprimer ce concours écrit, c'est aussi parce que peut-être ils vont mettre plus l'accent sur des profils différents et atypiques. Après, ils sont pas bêtes et ils savent très bien que quelqu'un qui vient d'Henri IV et qui a fait un séjour à l'étranger et qui est impliqué dans trois associations différentes, c'est peut-être parce qu'il a Sciences Po dans le viseur et qu'il le fait parce qu'il pense que... Mais du coup, je pense que ça va peut-être favoriser c'est un peu cette hypocrisie de se pousser à faire des choses qu'on n'a pas forcément très envie de faire, alors que maintenant, il y a plein d'associations qui me plairaient et dans lesquelles je pense m'engager l'année prochaine sur Paris. Et je le ferai vraiment de bon cœur et pas juste parce qu'il faut que ce soit dans mon dossier.
C'était quoi déjà, Chloé, ce que vous avez fait sans en avoir très envie?
Moi, c'était le conseil d'administration de mon lycée.
Conseil, mais dites donc, vous n'avez pas choisi en plus le plus sexy. Merci beaucoup.
Non.
Merci pour votre appel et merci surtout pour votre franchise, Vincent Tibéri. Ils sont pas bêtes quand même, dit Chloé, et elle a raison. Mais au fond, moi, je trouve ça intéressant ce que nous dit Chloé. Est-ce que le risque, c'est pas ça? C'est d'aller se dire, alors, mes notes vont compter, mais pas tant que ça. Ce qui va compter, c'est tout ce qui est extra, tout ce que je fais à côté. Donc, il faut que je rajoute plein de lignes à mon CV, en fait.
Oui, et donc c'est là où il va falloir que nous fassions nous-mêmes attention. On sait très bien que ça fait partie, enfin, en gros, d'une nouvelle définition des élites. C'est-à-dire que, quelque part, le séjour à l'étranger est devenu quelque chose de très important, de très intéressant, et notamment pour les admissions en deuxième cycle. Très souvent, on voit des étudiants qui étaient plutôt pas très bons au lycée et qui partaient faire 1, 2, 3 ans dans une fac anglaise et revenaient en disant « Regardez, j'ai une ouverture internationale, etc. » Donc effectivement, aujourd'hui, alors qu'on est encore dans une vision parfois un petit peu passéiste de la formation des élites, bon, mais là, clairement, cette idée des soft skills à l'américaine revient très très souvent. Mmh. Donc c'est à nous, en tant qu'évaluateurs, de savoir démêler le vrai du faux, de faire en sorte justement qu'un engagement associatif, si c'est juste un engagement de façade, soit remis en question. Je me souviens d'étudiants que j'avais eu à évaluer quand j'étais à Paris, qui effectivement avaient des très beaux CV, des militants politiques, ouais. Qui faisaient du théâtre, de la poésie, etc. Puis après, on se rend compte que cet étudiant en question se disait militant du PS et ne connaissait pas la notion de courant. Donc ça commençait déjà à poser quelques petits problèmes. Et donc en fait, on se rendait compte qu'effectivement, il avait très vite coché toutes les cases. Donc cela, et clairement, il faut les pousser. Il faut les pousser dans leur retranchement pour voir ce qu'il y a vraiment derrière. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier ceux qui n'ont pas eu cette chance. Parce qu'effectivement, ma co-invitée en parlait, elle travaille dans un marché, il n'y a pas le choix. Donc naturellement, quand on travaille dans un marché, on ne s'investit pas dans une nation, dans une association comme Amnesty International. Et donc, naturellement, il faut trouver le moyen de rendre visible et intéressant et valorisant le fait d'avoir un parcours différent, par exemple d'être d'origine immigrée, de parler. Quelqu'un qui parle arabe considère qu'il ne parle pas une langue étrangère, ou ne considère pas que c'est une belle langue, ou que c'est un atout. Et c'est un vrai travail. C'est à nous de le faire.
Chantal Dardelet, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si j'étais à votre place, dans le parcours de Chloé, je préfère qu'elle ait fait de la danse en quasi-professionnel plutôt qu'elle ait participé au conseil d'administration
de son
lycée.
Alors là, je vous confirme.
Ah ben voilà.
Mais du coup, avec ce qu'on se dit là, moi, j'ai envie de m'adresser aux jeunes qui nous écoutent peut-être, qui sont de milieu populaire, qui sont de quartier, qui sont de zone rurale, qui sont enfants, qui d'agriculteurs, qui d'artisans et autres. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que quand je passe des jurys d'admission, et je le fais chaque année, franchement, quand j'entends un jeune qui explique qu'il a travaillé en parallèle de ses études parce qu'à la maison, il fallait arrondir les fins de mois, quand il explique qu'il avait du babysitting, quand il explique qu'il n'a pas fait de séjour linguistique, mais évidemment, comme tous les gamins, il joue en ligne. Pardon, j'ai dit gamin aussi. Il joue en ligne. Et d'ailleurs, c'est sa meilleure pratique de l'anglais, parfois, etc. Moi, j'ai envie de le prendre. Et honnêtement, on a autant envie d'accueillir ces jeunes-là que pas. Il faut qu'ils en soient convaincus.
C'est ça qui est intéressant, parce que vous avez peut-être, vous, les grandes écoles, eu une vision d'un certain nombre de jeunes qui étaient déformés, mais à l'inverse, il y a une vision de ce que vous êtes qui est aussi terriblement déformée. Vous avez beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là, finalement, peut-être, non?
Alors, c'est pour ça qu'on travaille de longue date, en amont du bac, par les cordées de la réussite. On n'a pas encore parlé, mais comme ça concerne 100 000 jeunes chaque année, ça vaut peut-être le coup d'en parler, sont ces partenariats entre des établissements du supérieur et des établissements du secondaire, souvent basés sur du tutorat étudiant, et bon nombre de grandes écoles comme d'universités pratiquent ce genre de choses, par lequel on accompagne des collégiens et des lycéens pour leur expliquer les perspectives et le potentiel et l'intérêt d'études supérieures, et où on décode petit à petit tous ces éléments-là et où on passe notre temps à pointer tous leurs atouts. Il ne faut pas qu'ils en doutent, franchement. Il ne faut pas entrer dans des moules. On a besoin, comme on a dit tout à l'heure, de pas mal de moules ou d'agrandir les moules existants.
Voilà. Et ne croyez pas qu'il y a donc des moules qui nous obligent à rentrer au conseil d'administration du lycée. Chloé, on vous salue. Bonsoir Jean-Claude. Jean-Claude.
Oui, c'est moi.
Pardon Jean-Claude, c'est normal que vous soyez loin parce que je vous ai fait poireauter 27 minutes et on vous écoute.
Et puis les débats ont évolué un petit peu.
Mais je vous en prie, allez-y.
Par rapport à la réflexion que je me faisais, qui était aujourd'hui, on considère, si on peut dire, que l'oral va permettre de contrebalancer en fait la situation défavorisée de gens qui viennent de classes défavorisées, du milieu défavorisé, alors que au moment de la réforme de l'institution de l'ENA, la libération, on a considéré au contraire que l'écrit permettait justement aux gens de, venant de milieux défavorisés de passer par-dessus l'avantage en fait qu'avaient les gens qui venaient de milieux cultivés et qui avaient de grande aisance à l'oral. Mmh. Et l'écrit était donc un facteur de promotion les gens venant de milieux défavorisés. Donc et ça, là, on est dans un raisonnement inverse.
Merci pour cette remarque, Jean-Claude. Est-ce que les temps ont changé hein, depuis depuis cette période-là, évidemment, 1945 et au-delà. Mais je trouve ça intéressant. Vous pensez réellement, Vincent Tibéry, peut-être que on a inversé notre focale, en fait, que effectivement, il fut un temps où c'est l'écrit qui aidait les plus défavorisés, c'est devenu l'inverse.
Bon, encore une fois. Tout processus de sélection, toute épreuve peut être socialement discriminante. C'est-à-dire qu'on dit, on dit depuis sur l'oral qu'effectivement ça va favoriser les grandes gueules par rapport aux timides, les hommes par rapport aux femmes, ceux qui ont une certaine aisance, etc. Et cette aisance, ça se construit socialement aussi, hein, de la même façon qu'un style à l'écrit se construit socialement. Donc effectivement, en fait, c'est pas tant l'oral ou l'écrit que la manière dont nous-mêmes nous analysons les choses. C'est-à-dire que si un oral est bien fait, on évitera d'avoir une espèce de moment où on leur demande d'être extrêmement fort, mais plutôt on va réussir à toucher un peu l'ensemble des talents des individus selon leur diversité. Le but du jeu est vraiment, encore une fois, que notre grille d'évaluation s'adapte aux candidats et pas forcément l'inverse. On veut pas les faire rentrer justement dans un moule comme on pourrait imaginer un moule à l'oral. En gros, être capable de faire un magnifique exposé en 10 minutes, en deux parties, deux sous-parties, ça c'est pour la fin du cursus dans les instituts d'études politiques. Il faut clairement pas avoir ça en tête si on veut sélectionner ce qu'on veut sélectionner, c'est-à-dire des gens au profil les plus différents possibles, territorialement, en termes de genre et en termes sociaux.
Et en termes de genre aussi, c'est intéressant que vous fassiez rentrer le genre aussi dans ce genre de discussion, en fait, et de choix. Chantal Dardelet, c'est aussi quelque chose que vous avez en tête de votre côté.
Oh bah, il se trouve qu'à la conférence des grandes écoles, la commission de diversité traite trois thématiques. L'ouverture sociale, ce dont on parle aujourd'hui, mais également la question d'égalité garçons-filles et également le handicap. Mmh. La diversité, c'est en fait de prendre en compte, l'ensemble des talents de la société sous toutes les formes.
Question subsidiaire et rapide pour vous, Vincent Tibéry. Vous nous avez dit effectivement les spécificités de Bordeaux et notamment les boursiers du secondaire. On a une question d'Hélène qui nous demande si tous les Sciences Po Provence vont suivre l'exemple de Paris ou si il y aura finalement une spécificité pour chacun et que vont devenir notamment les concours communs. Rapidement, si vous le voulez bien.
Mais je ne sais pas.
Ah. Bah écoutez, on ne peut pas faire plus rapide que ça, mais merci aussi de votre franchise. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Vous avez 8 secondes si vous voulez conclure.
Les grandes écoles, c'est 200 et plus de 200 grandes écoles. Qu'on n'oublie pas qu'il y a une école pour chacun ou une formation pour chacun et ne faisons pas le focus que sur quelques-unes d'entre elles. À chacun sa chaussure.
Absolument, à chacun sa chaussure, à chacun ses choix aussi. Faites le vôtre. Merci beaucoup et portez-vous bien.